Chers auditeurs de Pas de Quartier, bonjour. Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste sur Radio Libertaire 89.4 FM. Aujourd'hui, Pas de Quartier a le grand honneur de recevoir deux invités. Mesdames Sophie Tardieu-Joubert, bonjour.
Bonjour.
Et Madame Ilonée Schulz, bonjour.
Bonjour.
Bien. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour un livre coup de poing, et un livre qui m'a empêchée et qui me donne encore des cauchemars, mais que je recommande à mes auditeurs. Son titre, c'est « Impunité zéro, violence sexuelle en temps de guerre, l'enquête ». Alors, elle est sous la direction, cette « Impunité zéro », ce livre, de Justine Brabant, Leïla Minano et Anne-Laure Pinault. Alors, vous êtes 9 femmes, 9 journalistes d'exception, qui avaient enquêté sur justement ces violences sexuelles en temps de guerre. Vous, Madame Schulz, vous avez enquêté sur l'Ukraine. Et vous, Madame Tardy, sur les USA.
Oui.
Bien. Alors, quel est le point commun entre qu'est-ce qui définit impunité zéro et qui explique qu'on ait tous ces conflits dont on va aborder dans d'autres parties de l'émission. Ça va de la Syrie à les USA. Qu'est-ce qui caractérise impunité zéro, Madame Schulz?
Alors, en fait, je pense que ce qu'on a voulu faire avec ces enquêtes, à travers ces enquêtes et cet ouvrage, c'est démontrer qu'il y avait une forme d'impunité qui est un peu constitutive de toutes les violences sexuelles qui arrivent en temps de guerre, c'est-à-dire quels que soient les hommes en armes concernés, les victimes. On peut constater au fil de ces enquêtes une forme d'impunité presque totale. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a quelques condamnations, mais grosso modo...
L'impunité est la règle.
L'impunité est la règle, et c'est celle-ci qui entretient ces violences en temps de guerre. Voilà. Alors, nous, en tout cas, ne sont pas forcément une fatalité.
Alors, c'est ce que vous dites bien dans votre ouvrage, toutes les 9, c'est qu'il n'y a pas d'ADN dans les conflits. Le viol n'est pas l'ADN des conflits. On est bien d'accord. C'est parce qu'il y a l'impunité qu'il y a les violences sexuelles. On est bien d'accord.
Mais c'est ce qu'on pense. Et sinon, c'est dangereux de réfléchir dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il faudrait quoi? Qu'on accepte et que... Enfin, vous savez, c'est toujours on entend, et ça nous est souvent arrivé quand on a parlé de nos enquêtes et du livre, de dire mais oui... Mais finalement, ça existe depuis la nuit des temps. Enfin, les violences en temps de guerre, c'est pas nouveau. C'est comme ça. C'est les à côté d'un conflit.
Et ça
changera pas. Et donc, il faudrait faire quoi? Les accepter. Et en fait, on s'est dit que non. Et cet ouvrage est parti de cette volonté-là, d'essayer de démontrer les rouages de l'impunité qui entretiennent. Qui entretiennent ces violences et qui font que, aujourd'hui encore en 2017, elles perdurent.
Alors, Madame Tardy.
Oui, et il y avait évidemment parmi nos ambitions l'idée de montrer ce mécanisme d'impunité. Il y avait aussi dans un premier temps le fait de montrer l'étendue des dégâts, si je puis dire, c'est-à-dire le fait que ces violences sexuelles, elles sont perpétrées à grande échelle dans des pays très différents. Je pense qu'on a parfois tendance à penser que ça concerne des États non démocratiques, des pays en voie de développement. Enfin, voilà. Et c'est pas le cas. Enfin, c'est pas uniquement le cas. On a dans le livre l'exemple de la France. Moi, j'ai travaillé sur les États-Unis.
Alors, pour l'exemple de la France, il faut rappeler que c'est l'opération Sangaris qui s'est déroulée en Centrafrique.
Voilà. Voilà. Donc on voulait, dans un premier temps, montrer que c'était une arme qui était utilisée de manière systématique dans des pays a priori très différents, mais on retrouve des mécanismes qui sont finalement assez similaires.
Voilà. Alors, on va revenir sur le cas des États-Unis, parce que c'est la plus grande, entre guillemets, ils se définissent comme étant la plus grande démocratie du monde, et ils ont choisi la torture sexuelle. Et sur le terrain, un terrain bien précis, l'Irak, pour commencer. Et c'était consécutif aux attentats du 11 septembre. Donc voilà le contexte. Madame Joubert, revenez sur votre enquête aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a frappé? Vous le dites bien dans votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez abordé et quand vous avez décidé de vous concentrer sur les États-Unis?
Alors moi, c'est comment dire, le reportage en fait était une idée d'Anne-Laure Pinault, qui est ma consoeur, mmh. avec laquelle j'ai enquêté. Et c'est vrai que la première fois qu'elle m'en a parlé, moi j'ai été surprise parce que je pense, comme beaucoup de gens, j'avais pas forcément l'idée d'associer les États-Unis à des violences sexuelles généralisées et surtout planifiées. Et c'est ça qui est voilà. qui moi m'a vraiment marquée dans notre enquête, c'est que ce ne sont pas des dérapages isolés.
C'est un système qui a été mis en place.
C'est un système pensé en haut lieu par les institutions les plus importantes de ce pays.
Citez-les, s'il vous plaît, madame.
Oui, j'allais le faire. Donc, il s'agit de la CIA et du département de la défense voilà. de
le
la
département d'État. Voilà. Comme on le dit couramment dans les séries télévisées et tout le reste, le département d'État. Citez-moi trois personnes, s'il vous plaît, qui étaient à la tête en amont. Des noms qui vont parler à mon public.
Vous voulez dire des gens qui ont pris la décision ?
Oui, s'il vous plaît.
Alors, nous, on a rencontré l'avocat général de la CIA, donc qui n'est peut-être pas un nom qui va parler à votre public, mais qui est un personnage important.
C'est même la cheville ouvrière, parce que juridiquement, il a donné les bases dans lesquelles ça pouvait se faire.
Mm-hmm. Et donc, il s'appelle John Rizzo, et c'est un personnage assez improbable, parce qu'on l'a rencontré... assez facilement, et voilà, donc plus de 10 ans après les faits, et il en parle avec un naturel déconcertant. On ne s'imaginait pas du tout que ce serait facile, déjà de le rencontrer, et puis de le faire parler de quelque chose qui est quand même plus que grave. Et voilà, et étonnamment, il en parle avec une liberté de parole et de manière complètement décomplexée. Et donc ça, c'était pour la CIA. Ensuite, en fait, il nous a expliqué qu'il avait essayé d'associer la Maison-Blanche à cette décision, parce qu'il était bien conscient que ce n'était pas normal et qu'il enfreignait les conventions internationales.
Notamment celle de Genève.
Voilà. Et donc, il a associé... alors, attendez, j'ai un trou.
Madame Rice.
Oui, alors, en fait, c'était des réunions qui avaient lieu en très petits comités. Et il y avait notamment Colin Powell et Condoleezza Rice. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, parce qu'il y avait peu de gens qui étaient présents, donc il y a peu de témoins. Mais John Rizzo affirme qu'ils étaient là.
Et, on n'a pas de raison de ne pas le croire.
Non. Mais juste pour resituer les choses... Voilà, et en fait, nous, on a rencontré aussi aux États-Unis un très proche collaborateur, enfin même le bras droit de Colin Powell. Et donc voilà, il nous avait expliqué que toutes ces décisions avaient été en fait... pardon, je suis fatiguée.
Je vous en prie, prenez votre temps.
Toutes ces décisions avaient été initiées par Dick Cheney, qui était... Voilà.
C'est le nom que j'attendais, Monsieur Dick Cheney. Donc ça, mes auditeurs connaissent. Tous ceux qui sont à Radio Libertaire ou qui écoutent régulièrement notre radio depuis qu'elle existe, Dick Cheney, ça, c'est un monument. Je veux dire, la guerre en Irak, les deux guerres en Irak, Dick Cheney, on connaît. Je n'ai pas besoin de leur faire un dessin. C'est bon, nous sommes en plein dedans. Vous faites dire à une psychologue d'exception, Madame Betty Grokigian-Radcliffe, ceci. La guerre tue et le viol va plus loin que la mort. Le viol n'est pas une fatalité, c'est l'impunité qui l'autorise. Donc, Madame Schulz, une réaction, s'il vous plaît. La guerre tue et le viol va plus loin encore. Vous avez enquêté sur un terrain européen, l'Ukraine, et vous avez interviewé une consoeur, Léna, qui a été violée, justement.
Tout à fait. C'est essentiellement donc mon autre consoeur, ma collègue avec qui j'ai travaillé sur cette enquête, Marie-Alix Ndetri, qui a échangé également avec cette personne. Peut-être avant d'en devenir à son
cas, en cas
pour rebondir sur la phrase que vous avez citée juste avant, moi, elle me rappelle surtout les mots d'une autre survivante, Irina, pour dire à quel point, c'est vrai, c'est-à-dire que elle a été en détention, cette personne, pendant plusieurs semaines, et dans ses mots, quand elle le racontait 2 ans, je crois, ouais, plus de 2 ans après, rien que la menace du viol... avait un effet dévastateur sur elle, et elle me l'a dit, elle se revoyait dans ces moments-là, et elle disait tout ce que je souhaitais, c'était mourir, pour pas qu'ils en arrivent là, parce qu'elle avait très très peur de ça. Et pour elle, elle l'affirmait, même avec le recul, être violée aurait été bien pire que de mourir. Donc voilà, c'est juste pour resituer, ça a vraiment un effet dévastateur, en effet. Enfin, ça va plus loin.
Oui.
Dans la bouche, en tout cas, de beaucoup des victimes.
Alors, je dois préciser pour mes auditeurs qui auraient envie d'acheter votre livre et de le lire, son titre, c'est « Impunité zéro ». Le sous-titre, c'est « Violence sexuelle en temps de guerre, l'enquête ». C'est publié aux éditions Autrement. Il a pour prix modique 17,90 €. Je le recommande, mais je préviens mes auditeurs. Comme le disait l'article de la semaine dernière dans Charlie Hebdo, je veux dire, on ne sort pas indemne de la lecture de cet ouvrage, mais il est nécessaire. Je veux dire, le viol, je le répète, la phrase, je veux dire, qui m'a glacée, la guerre tue et le viol va plus loin que la mort. C'est le fil conducteur de votre ouvrage. Les violences sexuelles vont plus loin que la mort. Je veux dire, c'est une mort, c'est une bombe à fragmentation. Et ça, vous le démontrez très bien. On va revenir au cas américain. Donc, notamment à ce que vous avez enquêté sur les cas de Abu Ghraib. S'il vous plaît, Madame Tardy. Vous avez réussi à avoir un survivant.
Oui, on en a eu plusieurs. On a interviewé cinq anciens détenus.
Voilà. Et quand ils ne se remettent pas de ce viol qui a été institutionnalisé. Les détails sont insoutenables, donc on ne va pas les révéler à l'antenne. On laisse le choix aux lecteurs éventuels ou aux autres de lire votre ouvrage. Mais vous insistez bien sur le côté, ils sont détruits.
Oui. Je ne sais pas si je dirais qu'ils ne se remettent pas, parce que c'est malgré tout des gens qui continuent à vivre.
Oui, mais...
Mais évidemment, c'est douloureux et ça laisse des traces, c'est certain. Et c'est vrai que ce qu'ils nous ont dit, tous, enfin, déjà, ils avaient énormément de mal à aborder ces violences-là, parce que c'est une humiliation énorme, mm-hmm. particulièrement pour des détenus de confession musulmane. Et donc, c'est vraiment leur intégrité qui a été touchée. Et c'est vrai que. Ils avaient du mal à en parler. Ils étaient parfois, notamment, on en a deux personnes qui n'utilisaient pas des mots, mais qui nous ont mimé un peu certaines scènes parce qu'ils n'arrivaient pas à en parler. Et ils nous ont dit également que c'était bien pire que les autres violences dont ils avaient fait l'objet.
Parce que, en fait,
que c'était pire que les coups.
Voilà. Donc c'est là où je voulais en venir, Madame Tardy. C'est-à-dire que avant. Il y a tout un processus. Le viol est l'ultime, mais on leur fait bien comprendre qu'on commence par les coups. Il y a tout un processus et le viol est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. C'est le point d'orgue de tout un système. Et ça, vous le démontrez très bien dans votre livre. Madame Schulz, vous allez peut-être le dire aussi pour l'Ukraine ? Ça a été pareil pour notre consoeur Léna.
Oui, là on se rejoint, nos enquêtes se rejoignent. C'est qu'on parle essentiellement sur ces terrains-là de violences sexuelles qui ont eu lieu en détention. Et dans ce cadre-là, les violences sexuelles sont partie intégrante d'une torture, d'un système de torture qui a... des objectifs certains, bien précis, soit d'obtenir
des aveux,
soit d'obtenir des aveux, soit d'obtenir des informations,
soit de briser
des dénonciations, soit d'humilier la personne, donc en général, c'est des personnes qui sont aussi là pour qui ont été ciblées. Et effectivement, ça commence en général, par des coups, et ça va progressivement vers la menace. De violence sexuelle, voire jusqu'à la violence sexuelle dans certains cas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est la douleur ultime. Enfin, voilà.
Ça, c'est oui, dans les prisons américaines, c'était c'est assez particulier parce que visiblement, il y avait un système de gradation. C'est-à-dire que tous les détenus étaient déshabillés. Ça fait partie des techniques qui ont été validées au départ pour les prisonniers de la CIA et puis qui se sont ensuite étendus aux prisonniers des prisons gérées par l'armée américaine. Et donc ils étaient tous déshabillés et ensuite ils ont, enfin nous les différents témoins qu'on a eus, ont tous subi des agressions sexuelles plus ou moins fortes, disons. Et ils nous expliquent que plus ils étaient religieux ou supposés être religieux, plus ils étaient visés. Parce qu'il y avait vraiment l'idée d'aller chercher ce qui était le plus sensible chez ces personnes. Et donc les institutions américaines, donc la CIA et le département, pardon, et le département de la Défense, qui ont travaillé sur ces techniques d'interrogatoire, aidés par des psychologues, avaient identifié comme faiblesse la plus manifeste.
Le sentiment religieux ?
Oui, enfin plus exactement, comment dire, la nudité, les attouchements sexuels, les viols, comme des choses qui étaient particulièrement honteuses pour des personnes religieuses ou supposées l'être.
Et surtout faites par des femmes.
Oui, oui, oui.
Tout on l'accuse des femmes.
Oui, oui.
Et quand il y a eu le scandale, la Bouraïb, si vous vous rappelez bien, on les a mises en pâture, ces femmes.
Oui, c'est ce que dit en tout cas une ancienne responsable de la prison d'Abu Ghraib, Janice Karpinski.
Voilà. Madame Schultz.
Oui, enfin pour dire que c'est, enfin tu parlais de nudité, Sophie. Effectivement, enfin en Ukraine, on le constate parce que voilà, on parle effectivement dans le livre, il y a les viols, mais au-delà de ça, donc c'est des violences sexuelles et souvent voilà quand on parle de violences sexuelles en temps de guerre, bon, on pense au viol, mais il y a tout un panel, si je peux le dire comme ça, malheureusement, de violences qui sont
à caractère sexuel.
Qui sont à caractère sexuel et qui sont vraiment aussi dévastatrices en elles-mêmes. La nudité, enfin voilà, en fonction du public, la nudité en fait partie. Il y a les mutilations, il y a les électrochocs. Et par exemple, la nudité, c'est. En Ukraine, il y a pour le moment, d'après ce qu'on sait, d'après les premiers chiffres, parce que c'est la particularité aussi du terrain ukrainien, c'est que c'est un conflit qui est toujours en cours. Mmh. Les faits sont assez frais et donc on en sait encore peu finalement sur les phénomènes. Mais il semblerait, d'après les premiers chiffres, toutes les premières enquêtes, il y ait peu proportionnellement de viols à proprement dit. Par contre, voilà, des violences sexuelles, ça c'est quasiment à chaque fois la nudité qui va avec l'interrogatoire, les attouchements, la poitrine, etc. Mmh. Tout ça, voilà, ça participe.
Mmh. Bien. Alors, nous allons faire une pause musicale de quelques instants et nous revenons pour aborder le projet Impunité Zéro et pourquoi vous êtes allé sur des terrains aussi peu documentés, parce que c'était aussi un défi pour ce livre.
Stepped into the Hall of Mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. glass. Sometimes he saw a surreal face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass.
Chers auditeurs de Radio Libertaire, chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louis Michel, nous sommes de retour à l'antenne. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas en début d'émission que j'invite deux journalistes d'exception pour un ouvrage, Impunité Zéro, Violence sexuelle en temps de guerre, l'enquête, aux éditions Autrement. Donc j'ai invité Madame Tardy-Joubert, Sophie, et Madame Ilioné Schulz. Donc nous allons revenir, Madame Schulz, sur le terrain de l'Ukraine, qui est votre terrain d'investigation. Est-ce que vous direz que, comme pour les États-Unis, il s'agit d'extraterritorialité sur le terrain sur lequel ces violences sexuelles s'exercent ? C'est-à-dire que c'est en dehors de la loi. On a un système qui permet d'être en dehors de la loi, d'être en dehors des clous et de faire ce qu'on veut des gens qu'on a entre ses mains.
Alors,
parce que Abu Ghraib, c'est extraterritorial. Guantanamo, c'est extraterritorial. Abu Ghraib, en partie. L'Ukraine, c'est aussi ça. C'est tout un territoire en guerre, donc sur lequel l'Europe n'a plus prise.
Alors, il y a les deux côtés. Donc, il faut faire une distinction entre le côté contrôlé par le côté de Kiev. Donc les forces gouvernementales et les régions indépendantistes, séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Donc voilà. Il semblerait que les violences sexuelles aient eu lieu des deux côtés.
Tout à fait. C'est ce que votre enquête démontre.
Voilà. A priori, pour le moment, d'après ce qu'on sait, mais ça, il nous faudra du recul pour vraiment en être sûr. Sans doute plus du côté séparatistes, mais tout ça s'est favorisé en fait par, encore une fois, on revient sur l'idée de l'impunité. Ces violences sexuelles ont eu lieu essentiellement au début du conflit, entre 2014 et 2015, où il régnait une forme de chaos des deux côtés, et encore peut-être plus du côté séparatistes, c'est-à-dire que de ce côté-là, les structures gouvernementales sont tombées.
Il n'y avait plus d'encadrement judiciaire ou policier.
Voilà, tout était à construire, entre guillemets, de leur côté. Et donc, forcément, on se retrouve dans une situation
de chaos
qui laisse libre cours, entre guillemets, à un certain nombre d'agissements. Je serais prudente sur l'emploi du terme de système. On n'en est pas encore là. En ce qui concerne vraiment l'Ukraine sur la question des violences sexuelles, en tout cas de façon juridiquement prouvée, il peut y avoir des hypothèses. Les gens qui continuent d'enquêter sur le terrain s'intéressent à cette question, essayent de voir si vraiment il y a eu des stratégies de mise en place, notamment du côté séparatiste. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, en tout cas, du côté de Kiev. C'est encore à l'étude. Ça faisait partie, oui, du système de la torture. Les violences sexuelles, c'est utilisé dans le cadre de la torture. Voilà. Après, à quel point ça a été généralisé, à quel point il y a une stratégie précise et des ordres qui venaient de plus haut, tout ça, je dirais qu'il faut encore qu'on creuse pour en être sûr.
Alors, Madame Tardy, Joubert, concernant les USA... Il y a un moment donné dans votre ouvrage, dans votre passage, où un des intervenants dit que c'est le plus grand scandale médical, parce que des psychologues ont été à la manœuvre, dès le départ.
Oui.
Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces psychologues? Vous êtes au courant?
Non, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'il y a eu des procès.
Oui, ils ont été condamnés.
D'accord.
Sur les bases de des lois de Nuremberg, qui justement prouvent bien que c'était un système et que ce sont des criminels de guerre qui ont donné la main à d'autres criminels de guerre.
Oui. Et j'y pensais là en entendant Ilioné parler de l'Ukraine. Nous, c'est vraiment le cas de figure inverse, dans le sens où c'est un système qui est généralisé, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il y a des lois qui ont été faites en ce sens-là.
Le Patriot Act.
Oui. Et puis, il y a eu surtout une liste de... Ils appellent ça des techniques d'interrogatoire poussées.
Tout à fait.
En jouant sur les mots et en disant que ce n'est pas exactement de la torture, parce qu'on ne coupe pas des mains ou voilà, enfin, on n'arrache pas des dents, donc ce n'est pas de la torture.
Mais il n'empêche Monsieur Runfeld a donné carte blanche à ses soldats.
Oui, alors ce que j'allais dire, c'est que non seulement ils font une liste de techniques qui est une espèce de mode d'emploi
opérationnel
de comment mener un interrogatoire. Et donc dans ces techniques autorisées, il y a la nudité forcée et il y a le fait de jouer sur les phobies. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a une annotation qui est faite par Donald Rumsfeld et qui précise que ces techniques peuvent être modulées en fonction de l'intérêt de la personne interrogée, de son comportement, de si elle est résistante ou pas. Et ça, c'est une manière effectivement de donner carte blanche aux militaires et de leur dire vous pouvez complètement passer les bornes
Si besoin. Le pire, c'est qu'on a choisi pas n'importe quel militaire. On a choisi des gens qui n'étaient pas expérimentés dans l'interrogatoire. Parce qu'il y a ceux qui le faisaient, et qui le faisaient dans les règles, ont été écartés dès le départ. Et ils ne s'en sont pas remis. Et c'est même eux qui sont venus vous voir pour en parler.
Effectivement, on a eu affaire à au moins deux personnes qui étaient spécialistes du renseignement ou de ce milieu-là. Il y avait un ancien général qui était responsable de la prison de Guantanamo. Et on a également vu, alors je ne sais plus exactement quelle était sa fonction, mais un responsable du renseignement. Pardon, on en a même vu trois. Et donc toutes ces personnes nous ont expliqué qu'effectivement il y avait eu une espèce de putsch de la CIA. Enfin,
oui, la CIA, c'est le ménage.
Je peux faire un raccourci. Mais en gros, les attentats du 11 septembre ont complètement changé la donne aux États-Unis parce qu'il y a eu des erreurs de fait, visiblement, par les services de renseignement à ce moment-là. Enfin, ils ont laissé passer des choses qu'ils n'auraient pas dû laisser passer. Et après, du coup, le gouvernement a transféré le domaine du renseignement à la CIA. Mais du coup, ils ont un peu improvisé, ils ont bricolé, ils ne savaient pas faire. Et donc, ils ont un peu repris des méthodes de films d'espionnage, enfin, voilà, des idées qu'on peut avoir sur la torture quand on n'est pas spécialiste, à savoir si on brutalise les gens, ils vont parler. Et c'est dans les grandes lignes un peu ce qu'ils ont fait.
Alors, pour précision.
Et pardon, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur le crime médical. C'est vrai que l'autre particularité de ces violences sexuelles aux États-Unis, c'est qu'elles sont effectivement commises avec l'aide de médecins. Il y a les deux psychologues dont on a parlé qui ont participé à l'élaboration des techniques en amont. Et ensuite, sur place, il y a des violences qui ont été commises sous le regard des médecins, voire avec leur aide active.
Voilà. Alors, sachant que, historiquement, ça a été prouvé, avant d'envahir l'Irak, les Américains se sont fait projeter la bataille d'Alger, le film de Pontecorvo, que nos militaires français sont allés leur donner des leçons sur la guerre subversive, la guerre révolutionnaire. Quelque part, je veux dire, on était tranquille. Ça allait déborder. Et votre livre le prouve. Nous, quand on a su que la bataille d'Alger allait être le modèle de guerre proposé aux Américains, on a commencé à avoir peur pour la population civile, pour les civils. Parce que c'est principalement des civils qui ont payé le prix fort des violences sexuelles.
Celles dont on parle dans les prisons de Guantanamo et d'Abu Ghraib, je pense qu'on ne peut pas être non plus complètement manichéen. Enfin, il y a évidemment des innocents.
Oui.
Il y a des personnes qui ont été, qui sont un peu tombées dans des grands coups de filet.
Voilà.
En Afghanistan, après les attentats du 11 septembre, je pense qu'ils ont effectivement arrêté un peu n'importe qui sur la foi
de faux renseignements,
de personnes qui étaient payées pour livrer des Occidentaux ou ou des potentiels combattants d'Al-Qaïda. Voilà. Donc tout ça était assez arbitraire. Après, il y a aussi...
des vrais méchants.
Y a aussi, voilà, il y a aussi des gens pour lesquels il y a beaucoup plus de faits qui ont été impliqués. Voilà,
Oui, mais est-ce que c'était une raison pour les...
Évidemment, évidemment pas. Mais c'est, voilà. C'est, quand vous disiez que ça concernait les civils de manière générale, oui, mais voilà, il y a aussi quand même... des personnes pour qui la question, enfin comment dire, dont je m'embrouille, mais il y a des personnes qui sont réellement impliquées.
Prenez votre
temps. Je pense que ça pose justement une question d'actualité, à savoir est-ce que la lutte antiterroriste doit permettre d'outrepasser la loi. Enfin, c'est des questions qui sont soulevées périodiquement dans le débat français, pas exactement de cette manière-là encore, mais
on y arrive.
Comme vous venez de le dire, ce n'est pas une raison. Pour se passer des lois qui ont été mises en place.
Alors, Madame Schulz, l'Ukraine est en Europe. Mm-hmm. Comment se fait-il que l'Europe ait été impuissante, à votre avis, pour empêcher tout ça ? Et qu'elle est impuissante à amener un début de justice à ces victimes avérées, qui sont sur la place publique ? Je veux dire, le témoignage de notre consoeur, il est sur YouTube, il est partout. Je veux dire, moi, j'ai visionné et j'étais glacée.
Oui, alors en fait, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si vous voulez, votre question est pourquoi l'Europe n'a pas arrêté la guerre en Ukraine.
Non, c'est pas cette question-là.
On pourrait se poser cette question-là à propos de bien des sujets. On pourrait parler de la Syrie dans ces cas-là.
Oui, qui est abordé dans votre ouvrage. Voilà. C'est même d'ailleurs le premier dossier. Mais ce n'est pas vous qui l'avez.
En effet.
Voilà. Mais... Il y a ensuite Sangaris.
Tout à fait.
Alors Sangaris pose un problème majeur. Pour nous, c'est-à-dire que la justice française a été à l'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle une des accords entre la Centrafrique et la France. Et en cas de problème, si j'ose dire, même de violence sexuelle, c'est la primauté de la justice française qui était à la manœuvre. Donc, quand on voit la façon dont la justice française a fonctionné, je veux dire, c'est le plus grand scandale d'abus sexuels sur des mineurs et il y a eu un non-lieu général.
Alors, sur le cas de la France, pour le moment, on en est... donc là, je parle au nom de mes consoeurs qui ont suivi Leïla Milano et Justine Brabant, qui ont réalisé cette enquête sur trois affaires qui sont évoquées, enfin en tout cas pour l'opération Sangaris. Il y a une qui a été classée sans suite, un classement sans suite, donc... Une autre qui concerne le camp d'Mpoko et les enfants qui ont subi des agressions, des atteintes sexuelles. Un non-lieu requis par le procureur qui sera a priori sans doute suivi des faits.
Tout à fait.
Et une autre enquête, on ne sait pas trop où ça en est pour le moment. Voilà. Donc pour le moment, disons que la justice
classe tout.
Piétine, pour le moins, là-dessus.
Elle est même en coma dépassé.
Voilà.
Pour ce qui est de la Syrie, il faudrait revenir et expliquer très vite que, en fait, vos consoeurs ont enquêté sur les viols des enfants. Ces enfants avaient un profil particulier, plutôt exactement leurs parents.
Voilà, c'était souvent c'était des enfants dont les parents étaient opposants ou en tout cas soupçonnés d'être opposants au régime. Et les enfants étaient utilisés comme moyen d'atteindre les parents. C'est-à-dire, soit on n'arrivait pas à trouver le père ou la mère qu'on soupçonnait. Dans ces cas-là, on prend ceux qui sont là et puis on les met en détention de la même façon et on s'autorise à des sévices de la même façon que sur les adultes, ou alors des enfants directement ciblés parce qu'ils étaient vus aussi comme à l'origine de la révolution, notamment le cas de Dera, etc.
Voilà, tout à fait, qui a embrasé en fait. Ouais. Parce que quand on a su que l'enfant avait eu des sévices sexuels, c'est toute la région qui s'est embrasée, ce qui était légitime. Parce que ce que vous dites, disent vos consoeurs...
Donc c'est Cécile Andrzejewski et Leïla Milano qui étaient sur la Syrie, oui.
La particularité de violer un enfant pour la société syrienne, en fait, la société est complètement détruite. Et ça, c'est un chaos pour les générations futures qu'on a préparé. Et quand on sait qu'à la tête de cet État, il y a un médecin, on ne va pas dire que ce n'est pas un système. C'est prévu en amont.
Je crois que Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que les deux cas dont on témoigne, où le système est justement un système, enfin, je veux dire, où les violences sexuelles.
Oui, là, on est vraiment dans le cas isolé, mais dans le viol comme arme de guerre. Quoi.
Pensé dans les plus hautes sphères de l'État, c'est la Syrie et les États-Unis.
Voilà. Donc avec l'aide de médecins. Bachar el-Assad est médecin, et il y a des médecins qui ont été à la manœuvre. Bon. Alors, Madame Schulz, on va en venir au travail de vos consoeurs par rapport à la CPI. Oui. Il y a une interview excellente de Madame, j'ai l'exemple sous les yeux, Madame Minano, qui dit « Même la CPI ne fait rien pour lutter contre les viols de guerre ». Alors, sachant que la CPI est la plus haute juridiction mondiale, je veux dire, quelque part son titre... Le titre, quand on arrive à la passage de la CPI, et qui a pour titre la Cour pénale internationale, dernier maillon d'une chaîne malade, je veux dire, tout est dit.
Bah, là, on arrive donc avec en fin de livre, effectivement, en fin d'enquête, sur cette enquête sur la Cour pénale internationale, et qui démontre en effet, donc, qui a été réalisée par Ariane Puccini notamment, qu'il y a un gros problème de moyens et quelque part de volonté. Enfin,
il n'y a pas de volonté politique, ça on l'avait compris.
Voilà, et surtout quand on... Bon, il y a un passage de l'enquête, plus précisément sur le procureur...
Ocampo.
L'ancien procureur de la CPI, bon, qui n'est pas non plus...
Blanc-bleu.
Complètement blanc, en effet, lui-même concerné par des affaires de violences sexuelles.
Tout à fait.
Donc ça laisse réfléchir, oui. En effet.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes en troisième et dernière partie consacrée à l'excellent ouvrage Impunité Zéro, violence sexuelle en temps de guerre, l'enquête, publié aux éditions Autrement. Donc j'ai deux des journalistes sur les neuf qui ont enquêté, Madame Ilioné Schulz et Madame Sophie Tardy-Joubert. Alors, nous allons revenir en dernière partie sur le projet Impunité Zéro. On va l'expliquer. En fait, vous avez choisi de documenter les conflits non couverts ou très peu couverts par vos confrères et consoeurs journalistes. Et surtout, c'est issu d'une initiative faite par deux personnes. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Madame Schulz ou Madame Tardy? Allez-y.
Alors en effet, il y a eu à l'origine du projet donc Stéphane Hubert Bliès et Nicolas Bliès,
deux frères,
voilà, qui dirigent une société de production qui s'appelle Abane et qui ont voulu monter ce projet. Et dès le départ, l'idée était de s'attaquer à l'impunité, c'est-à-dire d'étudier et d'enquêter sur ce phénomène de violence sexuelle en temps de guerre, mais d'en démontrer surtout les mécanismes de l'impunité. Et donc le projet a pris plusieurs formes. Donc nous avons enquêté, les enquêtes ont ensuite été publiées sur Mediapart au premier semestre de l'année 2017.
Mmh. Et ça fait grand bruit, hein.
Voilà. En parallèle, donc, il y a eu des pétitions qui ont été publiées sur le site de Zéro Impunity. Parce que, voilà, après publication sur Mediapart, toutes les enquêtes, vous pouvez les retrouver d'ailleurs intégralement
sur le
site même de Zéro Impunity. Mmh. Et avec des pétitions qui ont récolté, je pense, au total, aux alentours de 400, un peu plus de 400 000 signatures aujourd'hui.
Il y a
une marche virtuelle, une interpellation, des projections sur la façade, notamment du ministère de la Défense, etc. Et en ce moment, ils sont dans la fabrication du film d'animation qui sortira en
2018.
Début 2018, voilà, début 2018. Et qui est tiré, en fait, de nos travaux d'enquête. Donc, ils ne reprennent pas l'intégralité, bien sûr, mais basés sur nos enquêtes.
Alors, Madame Tardy-Joubert, je sais que vous devez partir, donc je vais vous donner la parole pour conclure. Pourquoi Impunité Zéro et pourquoi vous avez choisi de vous adresser au chef des armées françaises, M. Macron, qui, bien sûr, s'est bien gardé de répondre. On est bien d'accord.
Je suis désolée, je ne vois pas à quoi vous faites référence.
Il y a la pétition s'adresse à M. Macron. D'ailleurs, les signatures.
Alors, c'est donc Zéro Impunité, c'est un projet assez vaste.
Oui.
Donc, il y a plusieurs volets. Le volet pétition, moi, je n'y ai pas été particulièrement associée, donc je ne pourrais pas bien vous en parler.
Alors, c'était une pétition.
C'était une pétition à votre question. À la question, Amit, je ne sais pas si vous avez une autre question.
Oui, oui, pour Madame Joubert. Après la parution du volet américain de l'enquête, qu'est-ce qui a changé par rapport à votre travail? Parce qu'il y a eu des suites. Bon, il y avait des plaintes contre ces deux psychologues. Elles ont abouti à leur condamnation sur les bases des lois de la guerre et la base des crimes contre l'humanité du temps de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre livre a encore des effets aux États-Unis ou ailleurs en Europe?
Honnêtement, moi là-dessus, je serais assez modeste. Je ne pense pas qu'on fasse trembler l'État américain.
Pour l'instant.
Après, ça c'est très personnel. Hein. Peut-être que vous auriez d'autres réponses si vous posiez la question à d'autres journalistes. Moi, ça, c'est pas. Voilà, j'y crois pas tellement. En revanche, je pense que c'est important de parler de ces sujets. C'est important que l'opinion publique soit informée, puisse s'en emparer. Et je crois plus à ça, mais ça, c'est une question qui va même au-delà d'impunité zéro. C'est pourquoi on fait notre métier, qu'est-ce qu'on pense que ça peut apporter. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y aura un effet direct entre impunité zéro et la politique menée par les États-Unis. Enfin, alors, nous, notre sujet au sein d'impunité zéro, il est un petit peu particulier, dans le sens où c'est, pour le coup, un thème qui a quand même été pas mal documenté aux États-Unis. Oui. Vu que c'est des faits qui remontent à plus de 10 ans, il y a eu beaucoup de travaux menés par des journalistes américains sur ce qui s'est passé à Abu Ghraib, à Guantanamo. Voilà. Nous, on a plus mis la lumière sur les violences sexuelles. C'est-à-dire que je pense que, voilà, par contre, ça a été documenté, mais je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment de travaux qui isolaient les violences sexuelles comme une arme particulière et pensée.
En amont.
Pour des raisons particulières. Donc voilà, nous, on a essayé d'apporter cette pierre à l'édifice. Mais en revanche, on n'est pas les premières à s'intéresser aux exactions qui ont été commises par l'armée américaine. Donc je pense que si quelque chose bougeait, ça serait de toutes les manières le résultat d'un travail collectif de journalistes et dans lequel les journalistes américains, je pense, nous ont largement devancés.
Madame Schulz, par rapport à l'Europe, qu'est-ce que va apporter votre travail sur l'Ukraine et pour d'autres conflits? Parce que l'Ukraine est un conflit majeur en Europe, mais s'il y en a d'autres qui se déclenchent, on sait qu'il y a beaucoup de régions qui veulent se séparer, qui sont séparatistes et qui ont commencé. S'il y a des guerres, qu'est-ce qui va se passer?
Alors là, je serais bien...
Bien en peine.
Ouais, bien en peine de vous dire effectivement qu'est-ce qui peut advenir, des futurs conflits, etc. Je rejoins un peu là ma collègue... Sophie, sur cette question, nous, notre devoir, enfin en tout cas, c'est de parler de ce sujet, de le mettre sur la table. Concrètement, sur le sujet de l'Ukraine, il n'y avait pas eu vraiment
avant vous,
d'enquête.
Je n'avais pas trouvé.
Approfondie, on va dire, sur le sujet. Je sais qu'il y a des travaux qui sont toujours en cours, donc c'est une pierre à un édifice, je l'espère. Plus global et futur, parce que la parole est encore difficile pour les victimes en Ukraine. Le traumatisme est très 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 frais, donc c'est compliqué. Pour la question, enfin du point de vue de l'Europe et de la justice, c'est compliqué de répondre sur cet aspect-là. En fait, les victimes ont déjà essayé. On a peu d'espoir pour le moment, mais d'obtenir justice dans leur pays. Pour le moment, il y a vraiment très très peu d'espoir. Elles peuvent se retourner ensuite, se tourner vers la Cour européenne.
Alors, quels seront leurs espoirs devant la Cour européenne?
Bah là, c'est d'obtenir des réparations, en fait, d'obtenir des réparations via la reconnaissance, en fait, de leur traumatisme, mais il n'y aura pas de condamnation des personnes. Parce que
donc,
là, il peut y avoir, il peut y avoir, ça peut que être le travail de la Cour pénale internationale. Mais on commençait de parler de la Cour pénale internationale tout à l'heure. Le problème de cette institution, c'est que bon, non seulement il y a un problème de moyens, il y a un problème politique, puisque il y a des freins politiques. Enfin, on ne va pas aller inquiéter un tel ou un tel ou tel pays ou tel pays pour des raisons politiques. En dernier ressort, il en est quand même de la volonté des États de vouloir condamner leurs criminels ou pas. Et on peut avoir de sérieux doutes sur cette volonté-là. Voilà, oui. Notamment si on pense au cas de la Russie, notamment l'Ukraine, etc.
Sachant que la Russie est membre du Conseil de sécurité, qu'elle a une voix et qu'elle fait veto à toutes les initiatives sur la Syrie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, et c'est majoritairement pour ça, qu'une grande dame de la justice, pas n'importe laquelle, Madame Carla Del Ponte, a claqué la porte de la commission sur la Syrie, parce qu'elle dit qu'elle n'y faisait rien. Et elle réclame à corps et à cri un tribunal pénal pour la Syrie. J'espère qu'elle va l'obtenir et qu'elle va le présider. Parce que son travail sur les Balkans et sur le Rwanda a été à la force du poignet. On a quand même réussi à avoir quelques criminels grâce à elle. Et c'est malgré les États qui lui refusaient les moyens de les arrêter, alors qu'ils savaient très bien où ils étaient. Donc ça, c'est documenté, c'est su, c'est sur la place publique. Il n'y a pas à y revenir là-dessus, je veux dire. Donc, avant d'arriver à la CPI, il y a l'ONU. Et l'ONU, le titre du chapitre, c'est « Permis d'abuser ». Donc, nous allons libérer Mme Tardy-Joubert. Et Madame Schulz, vous allez peut-être revenir un tout petit peu sur la spécificité de l'ONU. Alors l'ONU, ce sont des casques bleus prêtés par les États pour aller sur des théâtres de conflit. Et justement, comme ce sont des États, qu'on dépend d'eux pour avoir les troupes.
Donc, bah voilà, c'est ce dont parlent en effet nos collègues donc Hélène Molinari et Delphine Bauer, qui ont enquêté sur l'ONU et donc qui démontre bien le fait que l'ONU se retrouve coincée quelque part entre le besoin de contingent et le besoin ou la nécessité, on peut dire, de faire justice à un moment donné quand on constate qu'il y a des exactions, quand on a vent d'exactions et de violences sexuelles commises par les casques bleus. Et souvent, ça ne fonctionne pas, puisque c'est pareil. Encore une fois, là, donc l'ONU se repose sur les États pour faire cette justice, parce que les mécanismes, il n'y a pas réellement de mécanisme qui fonctionne et mis à l'œuvre au sein de l'ONU pour pouvoir punir les casques bleus, auteurs de ces violences sexuelles.
Alors, pire encore, on constate dans votre ouvrage qu'il n'y a pas que les casques bleus qui font des abus. Il y a aussi les civils qui participent à l'administration de l'ONU, qui sont pris la main dans le sac, si j'ose dire. Et même contre eux, c'est encore pire que pour les casques bleus, si j'ose dire. Je veux dire, les lanceurs d'alerte qui se sont penchés sur la question, qui ont essayé de faire leur travail, soit on ne reconduit pas leur contrat. Vous avez le cas fameux d'une des lanceurs d'alerte qui en est à 13 ans de combat contre l'ONU et qui a gagné en première instance. L'ONU fait appel et elle en est à son 13e année de combat contre l'ONU. Vous avez les autres lanceurs d'alerte qui sont poussés vers la sortie.
Donc, oui, c'est une véritable opacité du système. Enfin, clairement, ce qu'on comprend à la lecture de cette enquête, c'est que on ne veut pas que ces affaires sortent. On fait tout pour que les affaires ne sortent pas, pour que ceux qui ont envie d'enquêter, d'aller fouiller, de ramener des preuves de ces violences ne fassent pas leur travail.
Alors, il y a même un organisme qui est fait exprès pour enquêter, en fait, qui a pour nom, c'est le BSI. Voilà, tout à fait. Alors, quand on voit le travail, notamment d'un lanceur d'alerte, M. Compass, qui a été en fait le premier à ôter le couvercle du temps de Ban Ki-moon, quand on voit ensuite Peter Gallo, tous ces gens-là, on se dit, c'est pas possible.
Eux qu'on attaque après.
Mais oui,
c'est les victimes
se retrouvent coupables. Et les lanceurs d'alerte sont les coupables en puissance.
Voilà, parce qu'ils ont voulu essayer de faire justice, essayer de, en tout cas, de faire éclater la vérité et de punir les auteurs, encore une fois, de ces violences sexuelles. Et ils se heurtent au mur diplomatique, on va dire, des arcanes de l'ONU.
Bien. Alors, vous avez une image. Vos consoeurs qui ont enquêté sur l'ONU ont une image. Elles ont montré elles ont décrit le hall d'entrée de l'ONU. Il y a des portraits des anciens directeurs et du directeur actuel, tous des hommes. Et elles ont l'air de penser que si un jour une femme prendrait la direction de cette institution, ça changerait peut-être un peu les choses. Je suis assez d'accord avec elle. Mais est-ce que, quelque part, si on ne mettait pas à plat toutes ces institutions qui datent et qui ont dysfonctionné dès leur création, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était un dysfonctionnement majeur au point de vue judiciaire, parce qu'il a fallu créer des cours pour juger les dignitaires nazis. Je veux dire, on a fait des conventions. Celle de Genève qui n'est pas appliquée, qui est bafouée tous les jours. Celle qui protège les civils en zone de conflit. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ces cas, et justement par le prisme de ce que vous avez magnifiquement fait, l'éclairage des violences sexuelles en temps de guerre, et vous vous êtes tenu dans votre ouvrage au conflit en cours. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous fasse le reproche de ne pas parler, par exemple, des conflits qui ont eu lieu le siècle précédent, notamment celui du génocide au Rwanda, parce que vous avez tenu, et vous le dites dès l'introduction, au conflit en cours. Et ça donne un éclairage pour les conflits qui précèdent et ceux qui vont malheureusement venir.
Voilà, alors on ne pouvait pas bien sûr être exhaustive. Enfin, malheureusement, des conflits et des violences sexuelles dans des conflits, il y en a eu beaucoup par le passé. Il y en a toujours. On pouvait pas. Voilà, il fallait qu'on choisisse. Donc on a fait le choix de s'intéresser à des conflits
en cours.
En effet, en cours. Parce que, en démontrant les mécanismes d'impunité, aussi l'idée c'était de dire qu'il y avait encore un levier d'action,
oui,
potentiellement possible, on va dire, sur ces conflits en cours. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée des pétitions. Voilà. Il y a eu, on est à la frontière un peu du journalisme activisme, c'est-à-dire que ce qu'on voulait susciter, c'était l'indignation. Et d'où le choix de ces conflits en cours, et en tout cas de s'intéresser à des institutions qui sont en action. Enfin, voilà, l'armée française,
l'ONU,
la CPI. Voilà, là, on ne parle pas de conflits, mais on parle d'institutions qui sont
là pour nous protéger.
Oui, qui sont censées être là pour nous protéger, oui, pour protéger les victimes.
Qui dysfonctionnent depuis le début. Je veux dire, en lisant votre livre, je me suis interrogée sur les dysfonctionnements et j'ai fait une recherche personnelle, c'est mon dada, et j'ai constaté que ça dysfonctionne depuis le début. Je me suis demandé si, justement, à la lecture d'un conflit, celui du génocide au Rwanda, dont je suis proche par mes origines personnelles, puisque je suis originaire du continent africain, et par mon travail de militantisme, je me suis demandé si, quelque part, nous, les civils, n'aurions pas intérêt, en ce qui concerne les violences sexuelles, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, dans notre pays et dans le monde, il n'y a qu'à revenir aux affaires qui éclatent depuis l'affaire Weinstein, si on n'a pas intérêt à demander l'imprescriptibilité des crimes sexuels, quelle que soit leur nature et quel que soit le terrain de conflit, civil, militaire, en temps de paix, en temps de guerre, pour permettre justement à la justice de passer, même si elle dysfonctionne actuellement, de façon majeure. Qu'en pensez-vous, Madame Schulz? Est-ce que ce n'est pas un axe à suggérer aux féministes, à tous ceux qui veulent justement peser sur... On a une fenêtre d'opportunité large depuis l'affaire Weinstein. Je veux dire, la parole, et Madame l'héritier qui est morte il y a peu, le disait, la honte va changer de camp. La honte change de camp. Et quelque part, votre travail et le travail de zéro impunité, c'est autant de graines de sable dans le rouage de l'impunité. Est-ce qu'on ne devrait pas axer notre démarche pour exiger de nos gouvernements, Monsieur Macron vient de répondre à toutes celles qui demandaient quelque chose, saisissez la justice, mais justement, sachant qu'il
faudrait qu'elle fonctionne derrière.
Tout à fait. C'est ça, en fait. Donc, déjà. D'où le temps.
Voilà. Non, mais je pense. Enfin, voilà, ça n'engage que moi.
Aussi.
Vous postez. Donc, oui, a priori, l'imprescriptibilité.
C'est l'idéal.
Bien sûr, parce qu'on remarque bien.
Il joue sur le temps.
Voilà, parce que mais on remarque bien, et notamment c'était le cas pour le conflit. Oui, l'ex-Yougoslavie, je pensais voilà. surtout à ça. Il faut un temps pour les victimes, un temps qui est plus ou moins long, qui est personnel, qui est le traumatisme. Il faut un malheureusement, enfin, pour... et parfois tellement important que les survivantes peuvent pas
se reconstruire tout de suite,
ni se reconstruire, ni s'exprimer tout de suite, ni voilà, être tout de suite dans le dans l'action. Donc il faut laisser effectivement, je pense, ce temps. Mais au-delà de ça, il y a des choses. Enfin, ça c'est un aspect, l'imprescriptibilité éventuellement
majeur à mon avis.
Voilà, en effet, ce que vous en pensez. Les autres aspects, c'est notamment la formation des personnels militaires en France, en Ukraine, ailleurs dans le monde. Il faut une meilleure formation, de toute évidence. Une meilleure préparation au terrain, une meilleure
connaissance de la loi, sachant qu'on leur dit... il faut dire que c'est la prostitution déguisée. Sinon, si on dit que c'est un viol, vous en prenez pour 20 ans.
Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement. C'est ce qu'on a demandé. Mes collègues qui ont travaillé sur la France et sur l'affaire Sangaris ont demandé. On ne sait pas exactement ce que contiennent les formations des soldats français. En tout cas, le plan du gouvernement, on ne le connaît pas. C'est très difficile d'avoir des informations précises là-dessus. On lancera sans doute peut-être une question parlementaire d'ailleurs à ce sujet pour enfin avoir une forme de transparence, parce que sans savoir ce qui est concrètement et précisément prévu, il est difficile pour nous de demander d'aller plus loin ou d'aller dans tel ou tel sens. Donc déjà, voilà, enfin, nous, pour la France, c'est ce qui paraît être un axe quand même primordial. Une meilleure formation et information des soldats avant qu'ils partent.
Alors, sur le Mediapart, je renvoie mes auditeurs à Mediapart. Le blog des deux personnes qui sont à l'origine de Impunité Zéro est reproduit, et notamment c'est leurs entretiens avec l'entourage de Mme Florence Parly. C'est invraisemblable. L'attitude de la ministre des Armées est invraisemblable.
Ils ne prennent pas visiblement la mesure de ce qui se trame. Et c'est ça qui est un petit peu désolant. C'est-à-dire que, voilà, comme vous le disiez plusieurs reprises, le livre est sur la table. Quand vous me posez la question, qu'est-ce que l'Europe va faire alors ? Vous voyez déjà, on a du mal avec la France, alors que le livre est dans leur langue. Ça concerne des affaires qui sont proches de nous, entre guillemets. Et c'est difficile de les faire s'indigner. Voilà.
Alors, donc, que penser d'un employé de l'ONU qui dit « Oh, mais on ne va pas enquêter, ça va dépenser l'argent de l'ONU pour un cas de viol sur mineur. » Donc, c'est ça, vos consoeurs le reproduit, les propos de ce fonctionnaire. Donc, le chantier est vaste. Je vous remercie, Madame Schulz, Madame Tardy aussi, et vos consoeurs, d'être venus dans notre émission. Je vous précise que lorsque le film d'animation sortira en 2018, vous serez à nouveau nos invités.
Merci à vous.
Parce que c'est un sujet que nous n'allons pas lâcher à pas de quartier. J'invite mes consoeurs et mes confrères de Radio Libertaire à vous faire le plus d'invitations possible, parce que c'est un sujet d'actualité, un sujet brûlant, un fil rouge pour notre société. Et sachant que la Grande Muette ne fait pas partie vraiment de nos amis à Radio Libertaire et à la FA. Donc, acte, chers confrères et chers consoeurs, j'ai les coordonnées, on peut les joindre, elles sont disponibles. Merci infiniment de faire grand cas de Impunité Zéro, violence sexuelle en temps de guerre, l'enquête, aux éditions Autrement. Et je remercie Madame Paulian, votre attachée de presse, qui m'a vraiment facilité le travail en vous permettant de venir à notre antenne.
Merci à vous de nous avoir reçus. On reviendra avec plaisir. En effet, comme vous l'avez dit, c'est une lecture pas facile, mais nécessaire.
Alors, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Je sais que vous nous écoutez régulièrement. Je vous en remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours à l'antenne de Radio Libertaire, dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel. Radio Libertaire est toujours sur 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Merci, au revoir.
Au revoir.
La rage. La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. Si l'air est net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tard. Cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger. M'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse ou de la preuve.